Bonjour, chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Bienvenue dans une nouvelle émission consacrée à l'histoire et à l'art. Nous avons avec nous dans le studio Hervé Pinotto, que je remercie beaucoup d'être passé ce temps avec nous. Il va nous parler de Vitrail de Charlemagne qui se trouve dans le déambulatoire nord de la cathédrale de Chartres. Un beau vitrail qui raconte plusieurs scènes de la vie de ce roi qui n'a jamais été officiellement canonisé. Mais pourquoi ce vitrail de Charlemagne dans une cathédrale, cher Hervé Pinotto, qui n'est peut-être pas nécessaire de présenter à nos auditeurs? Vous êtes un historien et vous êtes grand spécialiste de l'héraldique. Pourquoi Charlemagne?
Eh bien, il faut dire que la figure de Charlemagne est évidemment encore à notre époque importante, puisque je crois que le Conseil de l'Europe distribue toujours des prix Charlemagne. Et il était évident que cette figure a été très importante dans l'histoire de France et même dans l'histoire de l'Allemagne. J'ai bien connu, c'était un ami, le grand historien allemand qui s'appelait Karl Ferdinand Werner, et qui disait que les premiers Capétiens n'avaient pas du tout envie de s'occuper de Charlemagne et de magnifier Charlemagne, d'autant plus que la dynastie carolingienne s'était éteinte assez misérablement, et que c'est tout naturellement que les Robertiens, les ancêtres des Capétiens, a été montés sur le trône parce que c'était les personnes les plus importantes du royaume, non seulement les plus importants, mais ils descendaient par les femmes de Charlemagne, ce qui est important, mais en réalité, le personnage qui est encore plus important derrière tout ça, c'est Pépin le Bref, parce que Pépin et sa femme, Bertrade, ont reçu la bénédiction du pape vers 753, par là, dans Saint-Denis, quand le pape est venu sacrer Pépin le Bref. Donc ça veut dire que les Capétiens, ce sont des gens qui se considéraient tout à fait légitimement comme les continuateurs des Carolingiens. Ils n'insistaient pas évidemment sur la question du sang, et ce n'est que vers la fin du XIIe siècle, avec la magnification de la figure de Charlemagne, tant en France qu'en Allemagne, parce que les Allemands se sont dit quand même que c'était quand même un grand bonhomme, ce Charles, et avec Frédéric Ier Barberousse qui s'est occupé de réaménager les reliques du grand roi, qui est de ce grand empereur qui se trouve à Aix-la-Chapelle, donc en Allemagne. Les Français se sont trouvés devant un coup de propagande avait besoin d'être, comment dirais-je, relativisé avec l'évocation de cet homme-là en France. La chose était d'ailleurs à ce point que le pape Innocent III, dans une décrétale qui s'appelle Novit Illi, qui est d'avril 1204, a souligné que Philippe Auguste était un descendant de Charlemagne. Évidemment par les femmes, mais ça n'avait pas d'importance. C'était une descendance véritablement sacrée. À ce moment-là, il y avait peut-être 10 000 descendants de Charlemagne, mais enfin, le roi de France était quand même quelque chose de capital. Je dois dire qu'à l'heure actuelle, il doit y avoir des millions de descendants de Charlemagne. Bon, la question est, c'est que il y a eu un moment dans cette cathédrale de Chartres où on a trouvé bon de mettre un vitrail à la gloire de Charlemagne. Voilà.
Mais ce sont les chanoines qui ont décidé du programme iconographique.
Oh, bah sûrement,
ils ont choisi Charlemagne pour le poser en modèle, j'imagine, au roi de France.
Oui, mais il faut bien dire que le roi de France était un homme qui était vraiment un homme très important, d'un caractère d'ailleurs pas très facile, et il n'était pas question que dans une cathédrale comme celle de Chartres, qu'on puisse, comment dirais-je, abandonner l'image d'un roi pareil, d'autant plus qu'il y avait toute une littérature qui s'était occupée du roi. D'après certaines personnes, c'est la famille de Ramble, si j'ai bonne mémoire, ils sont tout à fait pour le...
Colette et Jean-Paul de Ramble.
Oui, ils ont véritablement montré que c'était un vitrail qui était tout à fait normalement... qui a pu être décidé dès, on peut dire, dès 1204. Hein. C'est un, il est beaucoup plus, on, parce qu'on on donnait autrefois une date plus récente, enfin de 10 ans peut-être, et même un peu plus, mais en, 1204, c'est très important, parce que finalement, c'est l'époque où, en particulier, les croisés, soi-disant allant délivrer le tombeau du Christ, sont allés, ont fait un grand détour et n'ont jamais été plus loin. Ils sont allés prendre Constantinople. Et ça, la prise de Constantinople, qui a été vraiment très, très mal vécue par les Byzantins, a été... l'occasion pour les Occidentaux de faire main basse sur des reliques et de s'emparer de pas mal de choses. En plus, ils ont élu un empereur flamand, Baudouin, qui a été Baudouin Ier, un comte de Flandre, et cet empereur, sans doute un peu déjà nécessiteux, a envoyé des reliques au roi Philippe Auguste. Donc, arrivée des reliques, et il y a encore eu des reliques qui sont arrivées par la suite, les reliques de Sainte-Anne, si j'ai bonne mémoire, je crois en 1207 ou 1209, je ne me rappelle plus.
Envoyé par un comte qui avait participé
oui,
à la...
Voilà. Et donc à ce moment-là, c'est une des bases, enfin, la partie basse de ce beau vitrail, très complexe finalement, parce qu'il y a au moins trois récits qui ne s'en mêlent pas. Ils sont les uns au-dessus des autres. Et c'est en bas que commence toute l'histoire avec le texte du pseudo-Turpin qui s'appelle « Le voyage de Charlemagne à Constantinople ». Et alors c'est là qu'on voit que l'empereur Constantin VII, en rêve, voit un Charlemagne, un cavalier qui promet de lui venir en aide dans sa lutte contre les infidèles. Et notre empereur s'en alla donc à Constantinople, comme le dit le texte. Évidemment, ça, c'est tout ça, c'est de la légende, parce que Charlemagne, qui a eu des relations avec les Byzantins, même de houleuse, quand il s'est dit empereur des Romains, Charlemagne n'est jamais allé dans cet endroit-là.
Mais il devait épouser une fille de Byzance, et cela ne s'est pas fait.
L'impératrice Irène, si j'ai bonne mémoire, qui était à ce moment-là seule maîtresse du trône des Romains, il n'y a pas, mais des Romains orientaux, cette impératrice a voulu l'épouser, paraît-il, et ça, c'est, je crois qu'elle a été, ça n'a pas pu se faire, et finalement, n'empêche que.
Mais les infidèles étaient déjà devant les portes de Byzance, puisque Irène payait déjà le tribut au 8e siècle.
Ben oui, ça marchait.
Donc je pense que l'histoire, il y a toujours un noyau de vérité qui
oui,
est ensuite...
Oui, bien sûr, mais là, ça ne s'est pas fait. Et la légende donc le dit, le texte dit qu'effectivement, le roi, l'empereur, est allé à Jérusalem, a délivré Jérusalem, et Constantin lui a donné des reliques. Alors, les reliques... sont la couronne d'épines, un morceau de la Sainte Croix, le suaire de Jésus, la chemise de la Vierge, en fait chemise c'est un voile comme on le sait, et bien entendu le bras du vieillard Siméon, tout ceci d'ailleurs, une partie de ces choses-là étant allée par la suite à cause de Charles le Chauve, étant allée à Saint-Denis. Et puis après, donc Charles le Chauve, d'ailleurs pour le voile de la Vierge, est allé à Chartres. Bon, donc là, nous avons une première partie de ce vitrail qui commémore l'arrivée des reliques. Et ça, ces reliques sont très importantes parce que nous sommes dans une civilisation qui est chrétienne, et bien entendu, elles ont de l'importance. Il y a un vitrail que j'aime beaucoup. C'est le vitrail qui montre Charlemagne à genoux devant l'autel, surmonté d'une croix, et il présente comme principale relique une couronne, et personne ne fait attention à ce qu'il y a à côté de la couronne, qui est accolé à la couronne, c'est un clou. Autrement dit, c'est l'évocation de la Sainte Couronne et de la Sainte Couronne de Saint-Denis et du Saint-Cloud. Alors la Sainte Couronne en réalité n'est pas en soi une relique, c'est que sous la pierre centrale, qui est un spinel, c'est un faux rubis, mais un spinel gigantesque, elle n'est d'ailleurs pas dessous, c'est la pierre a été percée et l'épine, la sainte épine est à l'intérieur. Donc, la sainte couronne renferme une épine de notre Seigneur Jésus-Christ, de la couronne de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, on oublie toujours le clou qui est collé contre la couronne. Et moi, je dis, attention, il y a le clou. Nous sommes vraiment dans une ambiance de Saint-Denis. Parce que si c'est le don à Aix, à Aix-la-Chapelle, il est évident que tout ça est venu par la suite par Charles le Chauve, qui a été empereur et qui a pu saisir les reliques dans Aix, puisqu'il a été le patron d'Aix. Voilà, il a été le maître d'Aix.
Donc cette scène dans le vitrail, dans ce médaillon circulaire, à votre avis à Saint-Denis ou à Aix?
Ça se passe à Aix. Et c'est Charles le Chauve qui a, à mon avis, pris ces reliques, qui les a prises et qui les a apportées à Saint-Denis. Voilà, on peut voir ça comme ça. Bon,
Est-ce qu'on peut trouver une explication pourquoi tantôt Charlemagne est nimbé et tantôt il ne l'est pas? Est-ce qu'on peut trouver une explication liée à l'histoire, au fait que Charlemagne tantôt il est nimbé?
Je ne sais pas. Oui.
Alors que dans d'autres scènes, il ne l'a pas.
Normalement, il n'est pas encore saint. Normalement, il devient saint avec un antipape qui fait plaisir à Frédéric Ier Barberousse. Mmh. Ah, ça, c'est pas normal, mais on peut peut-être le considérer à cette époque-là comme un bienheureux, mais c'est pas réellement un saint. Quoi qu'il en soit, je reviens sur la couronne, parce que je suis un insignologue, je m'occupe des insignes du pouvoir. Et c'est une couronne, il y a une coiffe conique à l'intérieur, il y a une espèce de tiare. Ça veut dire que déjà, la couronne, les couronnes des rois de France, c'est l'évocation de la couronne qui est à Saint-Denis, les couronnes ont déjà la tiare conique qui deviendra une jolie tiare emperlée des Philippe Auguste d'ailleurs. Pour la couronne du sacre du roi, parce que le roi est comme un prêtre et comme un roi. Louis VII a dit qu'il était comme un prêtre dans un acte, et on voit par exemple sur le grand vitrail du transept sud, qui est la gloire de la famille royale et des rois de France, on voit Melchisédek qui a une couronne d'or, jaune, qui est comblée d'une coiffe rouge, qui est celle, puisque qui est celle d'Aaron qui est à côté de lui. Voilà, le roi est un roi et prêtre, comme Melchisédek.
Et comme il est placé à côté du roi David, musicien, une petite pause musicale. Poursuivons avec Hervé Pinotto, historien qui est avec nous aujourd'hui dans le studio de Radio Grand Ciel, la lecture du vitrail de Charlemagne dans la cathédrale de Chartres. Nous avions parlé du premier épisode qui se trouve au bas de cette verrière, que les historiens datent autour de l'an 1204. Et nous avons vu que le premier épisode se rapportait à la quatrième croisade à Constantinople, et en tous les cas, on voit représenter des reliques, une épine de la couronne d'épines du Christ et un clou que l'on oublie effectivement souvent, nous rappelle Monsieur Pinotto. Alors je vous laisse la parole pour que vous puissiez continuer la lecture des signes que l'on voit dans ce vitrail,
oui,
des insignes.
Autrement dit, on remonte vers le milieu de ce fameux vitrail qui était absolument extraordinaire, et on arrive avec avec des épisodes de la chronique du pseudo-Turpin qui date de vers 1140. En songe, Charlemagne. Il y a beaucoup de songes. Hein. On a vu le songe de Constantin VII. Maintenant, c'est le songe de Charlemagne lui-même, qui voit Saint-Jacques, qui lui demande de délivrer le corps captif des infidèles, donc à Compostelle. Et Saint-Jacques lui explique qu'il faut venir vers le sud. La chose est très importante parce que c'est pas quelque chose d'extraordinaire que de faire un pèlerinage, d'autant plus que le père de Philippe Auguste, c'est-à-dire Louis VII, vers 1140, je me rappelle plus, 1147 par là, est allé à Saint-Jacques de Compostelle parce qu'il a rendu visite à son beau-père, le roi de Castille. Il avait épousé, je crois, Constance de Castille, c'était sa deuxième femme, et il est allé donc en Espagne. C'est vraiment un grand pèlerinage pour un roi de France que d'aller à Saint-Jacques de Compostelle. Évidemment, à ce moment-là, Saint-Jacques de Compostelle, Compostelle était dans les mains des chrétiens, mais dans le vitrail, on bloque différentes choses, donc il faut que Charlemagne, en l'an 700 et quelques, aille délivrer Compostelle. Ce qui est un peu intéressant, c'est que Saint-Jacques montre au roi le chemin pour aller à Compostelle. Le chemin de Compostelle se manifeste sous la forme de la Voie lactée. La Voie lactée qui traverse le ciel, on voit là un espèce de ruban blanc ondulant, c'est la Voie lactée, c'est peut-être sa première représentation au Moyen-Âge, je crois que j'ai lu ça quelque part, et c'est assez touchant de voir cette Voie lactée qui non seulement montre le chemin, mais qui par l'ampleur, par son fourmillement d'étoiles, et encore on n'a pas les télescopes, montre qu'effectivement ça peut, comment dirais-je, faire une allusion aux armées du roi, avec de nombreux soldats qui viennent, de nombreux chevaliers qui viennent sur ce lieu sacré. Bien. Alors, il est évident que aller à Compostelle, c'est pas tellement facile, il y a des infidèles, et ces infidèles bouchent le passage. Et il faut se battre. C'est donc à ce moment-là toute l'histoire de la prise de Pampelune, n'est-ce pas ? Et cette prise de Pampelune est très intéressante parce qu'à cause des combats qui sont montrés, n'est-ce pas ? Et on voit donc, là c'est la première allusion, si l'on peut dire, à deux choses. C'est que dans ce qu'on en a vu jusqu'ici, Charlemagne n'a pas d'armoirie. Ça, il savait quand même à cette époque-là que Charlemagne n'avait pas d'armoirie. Son écu est rouge. On le voit d'ailleurs dans la première partie du vitrail, et son écu est rouge, il est d'ailleurs orné de traits noirs, c'est-à-dire c'est le renfort de l'écu, c'est pas du tout des flèches comme certaines personnes l'ont dit, mais
est-ce que c'est de là que dérive les raids d'escarboucles?
C'est un raid d'escarboucle, tout à fait, un renfort de l'écu, et qui est très important dans certaines armoiries du XIIe siècle, et qui comment dirais-je, même pour certaines familles, traverse les siècles. Et donc, il y a la question de ces armoiries qui n'existent pas encore pour les cuirs rouges tout plein. C'est un signe de guerre, c'est un signe de sang. Et donc, à ce moment-là, il est bien certain que le deuxième emblème, c'est l'étendard. Bon, l'étendard est de couleur indécise. Je pense que j'en reviendrai quand même tout à l'heure sur cette question-là. Donc, il y a la prise de Pampelune, et étant donné que le chemin a été libéré, le roi, l'empereur Charlemagne, si l'on veut, construit la nouvelle église de Compostelle. Voilà. Ça, c'est la fin de l'épisode. Mais il y en a quand même un troisième. Bon. Ce troisième épisode... Alors, on dérape complètement. Ces gens étaient d'un syncrétisme absolument extraordinaire. Légende pour légende, on y va et on harponne à ce moment-là la chanson de Roland. La chanson de Roland, qui est quand même des ondes de 1100 et qui a été, qui est encore très liée à Saint-Denis, bien sûr. Cette chanson de Roland a nourri l'imaginaire français pendant des siècles, bien entendu. Et on voit plusieurs épisodes qui, alors, on remonte là dans les hauteurs du vitrail. Il y a d'abord le combat de Roland contre le géant Ferragut. Reçoit un coup mortel, je crois, dans le nombril. Bon.
Seul endroit vulnérable.
Oh là là, vous êtes bien savante, c'est formidable. Et alors, donc, à ce moment-là, c'est une occasion de tomber. Alors, c'est dans des épisodes beaucoup moins glorieux, parce qu'il s'agit quand même, à ce moment-là, du combat, le fameux combat de Roncevaux, qu'on a d'ailleurs bien estompé du temps des Carolingiens, parce que ça fut un désastre, de l'arrière-garde de l'empereur étant allé, paraît-il, à Saragosse, jusqu'à Saragosse pour vaincre les musulmans, et qui est revenu par le col de Roncevaux, et qui a été attaqué par des Gascons, et en réalité sans doute par des Basques. C'était en 778, même je crois le 15 août. Et Roland, là, qui était à l'arrière-garde, est figuré dans son combat, mais à la fin du combat de Roncevaux, où c'est déjà le drame, parce que il essaye de casser son épée du Randal pour qu'elle ne tombe pas dans la main des infidèles. Et en plus, il sonne du cor. Il sonne du cor pour appeler à l'aide. Et vous savez très bien que il y a eu Ganelon, le traître Ganelon, qui a fait que Charlemagne a mis du temps à renvoyer des troupes en arrière pour aider, mais trop tard, la pauvre partie de l'armée qui avait été démolie par les infidèles. Alors donc, tout ça, c'est dans la chanson de Roland. Et tout ça aussi, bien entendu, c'est lié aussi à Saint-Denis, Saint-Denis est évoqué évidemment dans la chanson de Roland. C'est un des grands pôles de l'imaginaire français, c'est Saint-Denis. Donc, on pourrait dire bon, ben c'est fini, non, mais il y a quelque chose encore. Il y a la trace pour terminer tout en haut. Il y a quelque chose qui paraît absolument ahurissant. C'est l'histoire qui est narrée dans la vie de Saint-Gilles. C'est une histoire rocambolesque qui a traîné dans le Moyen-Âge et qui dit que Charlemagne a fait une très grosse bêtise. C'est qu'il a enfanté dans l'adultère et même dans un adultère abominable, sans doute avec une sœur, il a enfanté Roland. Donc c'est pas joli joli, et il se repent amèrement de ce péché, encore que s'il a enfanté Roland, il a enfanté un vaillant soldat, il se repent. Et il arrive, c'est lors d'une messe de Saint-Gilles, dite par Saint-Gilles, qu'il a, il reçoit un billet du ciel qui lui explique qu'il est pardonné à cause sans doute de son repentir. Donc on voit tout en haut, le roi assistant à la messe, tout en haut, c'est tout en haut du vitrail, le roi dolent, triste, assiste à la messe de Saint-Gilles. Le Saint-Gilles qui lui tourne le dos, d'ailleurs, puisque c'est la bonne manière de célébrer la messe, c'est-à-dire le dos au peuple. Je dis ça comme ça au passage. Donc, c'est la fin de ce magnifique vitrail. Et je dois dire, d'ailleurs, qu'au vers 1500, il y a eu un peintre dont l'œuvre est dispersée, mais qui, dans la dernière exposition sur la France 1500, aux galeries du Grand Palais, dont son œuvre a été rassemblée, et on voit justement l'un des quatre tableaux relatifs à Saint-Gilles, un des quatre tableaux qui est relatif à la messe de Saint-Gilles, et qui justement montre l'intérieur d'une façon époustouflante de réalisme et de précision, le cœur de Saint-Denis. Et le roi est là avec une belle couronne sur la tête, et il sait qu'il va être pardonné. Voilà. Donc je dois dire que c'est assez extraordinaire de voir que cet épisode-là, qui n'est pas extrêmement glorieux, mais qui montre quand même qu'un roi peut être un pécheur, mais qu'il peut être aussi pardonné. Et c'est important, étant donné d'ailleurs que Philippe Auguste, lui aussi, il a été excommunié pour avoir s'être marié en deuxième noce. En deuxième noce avec en troisième noce avec Agnès de Méranie, voilà. Et d'ailleurs qu'il a été obligé de reléguer et dont il avait eu Philippe Urpel et il s'est remis bien avec sa femme qui s'appelait Ingeborg de Danemark, voilà. Donc, qui nous a laissé
un magnifique... Autre de l'histoire, on n'a jamais compris pourquoi il a répudié...
Ah, ça, c'est quelque chose d'ahurissant. C'est une des plus grandes énigmes de l'histoire de France. Pourquoi Philippe Auguste n'a pas été capable de consommer son mariage le soir même et qu'il en a été épouvanté et que c'était un roi qui, sur le plan psychologique, avait certainement une très mauvaise santé. Il avait d'ailleurs une mauvaise santé physique. Je crois qu'il devenait chauve et qu'il... Je sais pas, ce qui s'est passé d'ailleurs en Terre Sainte, quand il était à la Saint-Jean d'Acre, il est revenu précipitamment après la victoire, la reprise en main de Saint-Jean d'Acre. C'était un roi qui avait sans doute une santé qui n'était pas bonne. Et ce qui s'est passé dans cette nuit fatale, ça a été vraiment l'horreur de cette femme qui devait être sans doute une splendide blonde de la Nordique.
Une Brunhilde moins splendide.
Et alors, la question est, c'est que il a fait tout ce qu'il fallait pour se débarrasser de cette femme, la cloîtrer, la martyriser, etc. L'Église s'en est mêlée, ça a été effrayant. Et finalement, il a été obligé de capituler, parce que finalement, même l'Église de France en a souffert vraiment très gravement. Voilà. Si j'ai encore un tout petit peu de temps...
Il nous reste une petite minute.
Une minute.
Ah oui. Parlez-nous peut-être de la couleur de l'étendard.
Le gonfanon. Le gonfanon, l'étendard que l'on voit, c'est un étendard à queue, c'est un gonfanon, c'est un étendard qui normalement, si c'est l'étendard de Saint-Denis, il est connu comme étant rouge, ça se voit d'ailleurs dans la cathédrale de Chartres, et jusqu'à la fin, il est resté rouge, rouge, uni, sans rien. Il s'appelait Oriflamme. À partir de la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, on dit l'Oriflamme. Oriflamme, c'est un étendard qui est fait en tissu doré, avec un tissu d'or. Alors, ça a l'air d'être complètement stupide, mais en réalité, c'est tout simplement parce que chez les Carolingiens, on avait beaucoup d'étoffes dorées et qu'il y a dû y avoir chez les Carolingiens des étendards d'or. Ce qui est tout à fait normal, et que à ce moment-là, on a bloqué le souvenir de l'étendard doré. Le véritable oriflamme des Carolingiens devait être doré, et cet étendard était récupéré par l'armée française à travers les siècles, on lui a donné cette sacralité du nom d'oriflamme. Voilà.
Nous voilà renseignés sur l'origine du mot oriflamme. Merci beaucoup Hervé Pinotto pour toutes ces explications. Pour les auditeurs, une invitation à redécouvrir le vitrail de Charlemagne. J'espère qu'il n'est pas encore tout à fait encombré par les échafaudages grâce à une campagne de restauration. Le déambulatoire de la cathédrale va très très bientôt resplendir dans la couleur du XIIIe siècle. Merci beaucoup Hervé Pinotto, aux auditeurs, une très belle journée et à très bientôt dans 15 jours. Au revoir.